شيخ خير شيخ سير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
Ce soir, j'aimerais aborder avec vous le thème de l'amour divin et humain en islam. Le concept de l'amour est très important en islam. Il se manifeste dans la philosophie et la théologie islamique. Par exemple, pour comprendre le point de vue islamique sur la relation entre Dieu et l'univers, ou entre Dieu et l'humanité, l'amour joue un rôle crucial. En effet, cet amour, dont l'une des conséquences est la miséricorde qui lui est associée, constitue le fondement du lien unissant Dieu à l'homme et le but de la religion. Dans le verset 96 de la sourate 19, Allah dit « À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Dans ce discours, je me focaliserai exclusivement sur la notion d'amour divin pour la création et l'amour de l'homme pour son créateur. Commençons par l'amour divin. Le Coran souligne que l'amour est d'abord un attribut divin, comme il est indiqué dans le verset 90 de la 11e sourate. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour, Al-Wadud. Cela s'ajoute aux attributs divins, évoquant cette notion telle que Al-Rahman et Al-Rahim, le miséricordieux et le tout miséricordieux, tous deux dérivés de la notion de Al-Rahman, qui est un type d'amour particulier. L'interprétation qui est faite d'Al-Rahman par Cheikh Shomali est celle d'un amour proactif et désintéressé. Allah a plusieurs types d'amour pour ses créatures. Le premier est son amour général qui comprend l'ensemble de sa création, quelles que soient leurs actions. Ainsi, cet amour inclut même les malfaiteurs, car l'homme reste une création de Dieu, comme une mère éprouvant un amour maternel pour son enfant malgré ses défauts. Le niveau supérieur est son amour pour les vrais croyants, ceux qui croient en lui, la vérité ultime, et ceux qui font de bonnes actions. Ce sont les gens qu'il aime et qu'il aime. Sourate 5, verset 54. De plus, dans le Coran, nous trouvons que Dieu aime les défenseurs de la justice, Sourate 5, verset 42, Sourate 8, verset 60, ceux qui se purifient, Sourate 9, verset 108, les pieux, Sourate 3, verset 76, et ceux qui ont confiance en lui, Sourate 4, verset 35. Enfin, le plus haut niveau d'amour divin est son amour pour les êtres humains parfaits, tels que les prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam occupe une place particulière à cet égard. Un de ses titres bien connus est Habibullah, qui signifie le bien-aimé de Dieu. La question que l'on peut se poser désormais est de savoir si cette notion de Dieu-amour qu'on a présentée ici ne reprend-elle pas à l'identique celle développée par le christianisme. La réponse est négative. Pourquoi? Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que plusieurs versets évoquent ce que Dieu aime, comme nous l'avons vu, mais aussi ce qu'il n'aime pas. Par conséquent, l'amour est une réalité tout englobante. L'amour n'est pas une réalité tout englobante et inconditionnelle. Par exemple, Dieu n'aime pas les infidèles. Sourate 3, verset 32. Dieu n'aime pas les injustes. Sourate 3, verset 57. Il n'aime pas les gaspilleurs. Sourate 6, verset 141. Dieu n'aime pas les traîtres. Sourate 8, verset 58. L'idée d'un amour inconditionné, comme c'est le cas dans le christianisme, va à l'encontre du principe de justice divine selon lequel tout être doit être rétribué selon ses propres efforts et ses propres actes. Par exemple, si par compassion et amour, un professeur donne 20 sur 20 à tous ses élèves, qu'il ait étudié ou pas, qu'il ait été présent à l'examen ou pas, la justice et l'amour même ne sont-ils pas vidés de leur contenu? Si le Dieu de l'islam est avant tout un Dieu de miséricorde, les attributs de la colère et de punition sont considérés comme étant indissociables de cette même miséricorde. Un père qui ne donne que des sucreries à son enfant et ne lui dit que des choses agréables, l'aime-t-il vraiment? N'est-ce pas parfois en le punissant et en l'éprouvant qu'il lui manifeste véritablement son amour et lui permet de devenir véritablement homme? Cet équilibre est également le garant de la liberté de l'homme et du sens des actes. Si Dieu aime indifféremment les hommes sans condition, que devient le sens de la religion, de leurs actes, de leur vie? Bien que l'un des attributs de Dieu est la colère, comme nous l'avons vu, son application est beaucoup plus limitée par rapport à sa miséricorde et son amour pour ses créatures. Dans le Joshenekabir, on parle de Dieu comme étant celui dont la miséricorde a précédé sa colère. Cette miséricorde s'exprime notamment à travers la possibilité de se repentir offerte par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que l'amour de Dieu pour ses serviteurs ne soit pas arbitraire et dépend de leur mérite, comme nous l'avons vu, son amour pour les malfaiteurs est si grand qu'il dépasse largement leurs attentes. Le Coran dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 39, verset 53. Dans de nombreux versets du Coran, Dieu parle de la possibilité de se repentir et de retourner vers lui. Par exemple, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Sourate 5, verset 39. Le Coran fait également référence au fait que Dieu ne pardonne pas seulement à ceux qui cherchent le pardon, mais il peut aussi changer les mauvaises actions en bonnes actions. Sur ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes actions, le Coran dit « Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate 25, verset 70. Il est intéressant de noter que dans le Coran, Dieu n'est pas présenté comme celui qui accepte simplement le repentir de ses serviteurs et revient vers eux quand ils reviennent vers lui. En effet, c'est Dieu lui-même qui s'approche en premier lieu de ses serviteurs qui ont rompu le lien d'une manière ou d'une autre, leur relation de servitude avec lui. Après s'être adressé à eux, ils se repentent et reviennent vers lui. Et alors Dieu revient vers eux pour leur pardonner. Par conséquent, comme l'affirme Allama Tabatabai, chaque repentance et retour d'un serviteur fautif est entouré de deux retours de Dieu. Le premier retour qui donne à cette personne la capacité d'une repentance volontaire et le second retour qui est son pardon après que la personne se soit repentie. Le phénomène est indiqué de manière explicite dans le Coran. Il savait qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Alors il s'est tourné vers eux afin qu'ils puissent se repentir car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Sourate 9, verset 118. Une des illustrations remarquables est celle de Hud alayhi salam, auquel Allah a laissé la porte du repentir ouverte jusqu'au dernier moment. Désormais, nous allons parler de l'amour de l'homme pour Dieu. Selon l'islam, le minimum que l'on peut espérer des croyants est que Dieu ait une place centrale dans leur cœur, en ce sens qu'aucun autre amour ne peut l'emporter sur leur amour pour Dieu. Le Coran dit « Si nos pères, nos enfants, nos frères, nos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah vous fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les transgresseurs. » Sourate 9, verset 24. Par conséquent, un croyant n'est pas une personne qui aime simplement Allah. Un croyant est la personne dont l'amour pour Dieu est l'amour le plus fort qu'il ait, et qui par conséquent se soumet volontairement à la volonté divine. Il existe un célèbre hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons quel est le meilleur moyen d'acquérir la foi. Ils ont suggéré différentes choses comme la prière, le hajj. Quand il ne pouvait pas donner la réponse appropriée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur moyen d'acquérir la foi est d'aimer pour le contentement divin et d'haïr pour le contentement de ce dernier, de se lier d'amitié avec les amis de Dieu et de renoncer à ses ennemis. L'amour pour Allah s'inscrit donc dans une double dynamique. L'amour de l'aimé et de toute chose qui lui est liée et le désaveu de ce qui va à son encontre. L'une des plus illustres incarnations de cette parole est en la personne de l'imam Moussa alayhi salam. Pour conclure, nous nous contenterons de citer un extrait d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Relatant une parole de Dieu. C'est un hadith écoutez. qui souligne à la fois le haut rang qui peut être atteint par le croyant et l'amour profond qui l'unit à Dieu. Tout serviteur qui veut se rapprocher de moi ne se fait pas plus aimer de moi qu'en accomplissant seulement les actes de dévotion obligatoires. Mais de façon certaine, le serviteur suscite mon amour en accomplissant des actes de dévotion surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec laquelle il voit, la langue avec laquelle il parle, la main avec laquelle il donne et les jambes avec lesquelles il marche. Lorsqu'il me prie, je lui réponds. Et lorsqu'il me demande une chose, je lui la donne. Ici, le sens de la religion atteint son sommet en ce qu'elle permet d'atteindre le plus haut degré de l'amour, celui d'un amour divin et humain réciproque. Lorsque le croyant cherche à se rapprocher de Dieu et à se faire aimer de lui par ses actes, Dieu l'aime à son tour et se manifeste en lui. C'est cela même que signifie l'humanité et d'être le vicaire de Dieu sur terre. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur terre un vicaire », ils dirent, « Vas-y, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Sora 2, verset 30. Salvat.
Amen.